France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Le premier tour de la présidentielle est dans 46 jours, alors que l'entrée officielle en campagne d'Emmanuel Macron semble à nouveau reportée à cause de la crise en Ukraine. À droite et à l'extrême droite, la bataille reste très serrée entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Selon un dernier sondage de l'Institut Elabe, léger avantage à Marine Le Pen en hausse. Éric Zemmour vient derrière, Valérie Pécresse est en baisse. On est dans la marge d'erreur. Invité du 13-14 aujourd'hui, le porte-parole d'Éric Zemmour dans cette campagne, vice-président de son parti Reconquête, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. Bonjour Guillaume Pelletier.
Bonjour.
À un peu plus de 6 semaines du premier tour, c'est l'actualité internationale qui devient un sujet de campagne. Est-ce que vous redoutez une opération militaire massive des Russes en Ukraine qui irait au-delà d'un appui aux séparatistes du Donbass?
D'abord, il faut tout faire pour éviter cette guerre. Bien sûr que le risque existe, on le voit depuis plusieurs jours. Notre position avec Éric Zemmour, elle est claire, elle s'inscrit dans la politique et la vision gaullienne de la France. Puisque la France et puisque l'Europe n'ont pas su ces dernières années incarner cette voie d'équilibre entre toutes les hégémonies du monde, n'ont pas su rassurer la Russie sur sa volonté légitime de protéger sa propre sécurité. Vous savez que la question centrale de l'OTAN aux portes et aux frontières de la Russie, nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. Ce que nous proposons...
Mais on est d'accord que la guerre ou le climat de guerre est du fait de la Russie aujourd'hui, depuis le début de la semaine.
Si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. Bien sûr que nous déplorons les agissements de la Russie aujourd'hui, mais tout ça est la conséquence d'une incapacité de l'Europe et de la France en particulier à rassurer Vladimir Poutine et les Russes de leur droit fondamental à la sécurité. Nous, ce que nous proposons, c'est ni de ne se soumettre aux Russes, ni de se soumettre aux Américains. C'est que la France, comme le fit le général de Gaulle, comme le fit, rappelez-vous, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, en 2003, sur la question de la guerre en Irak, c'est de proposer un nouveau traité. Un traité qui reposerait sur deux piliers fondamentaux. Un, le principe des frontières intangibles, pour protéger l'Ukraine des agissements de la Russie. Deux, la garantie pour les Russes que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN, qui est considérée à juste titre par les Russes comme une menace.
Imaginons qu'il n'y a aucun processus d'intégration de l'OTAN, puisque ça a été écarté il y a quelques années.
Oui, sauf que, comme vous le savez, Vladimir Poutine regrette, à l'exception du chancelier allemand, que l'Europe et les États-Unis et l'OTAN ne se soient pas engagés clairement et définitivement sur le fait que l'Ukraine n'appartiendrait jamais à l'OTAN. Et
pourquoi le ferait-il ? Juste pourquoi le ferait-il ? Pourquoi s'engagerait-il, l'Ukraine et deux, l'OTAN, à ce que l'Ukraine n'intègre jamais l'OTAN ? Pourquoi le ferait-il ? Sachant que l'Ukraine est un pays indépendant et souverain.
Mais vous rendez compte l'erreur d'analyse profonde de l'OTAN ? L'OTAN, c'est cette idée ancienne qui consistait à dire il y a un affrontement entre l'Ouest et l'Est, et donc l'OTAN protège plutôt les pays de l'Ouest face à l'Est. Nous considérons que ce sujet, il n'existe plus. Il faudra toujours être vigilant, mais que l'hégémonie américaine aux frontières de l'Europe et de la Russie est une source, la preuve, de conflit. Et qu'il s'agirait bien plutôt aujourd'hui de recréer des alliances entre l'Europe et la Russie, par exemple, comme nous l'avons, il faut les garder entre l'Europe et les États-Unis pour lutter contre ce qui nous menace le plus, ce qui menace le monde, c'est le terrorisme islamique. Donc, juste pour que chaque auditeur comprenne bien, nous ne sommes avec Éric Zemmour ni soumis à Vladimir Poutine, mais pas plus aux Américains. Nous proposons un traité nouveau pour sortir de cette énième redite de la guerre froide et pour dire, un, les frontières de l'Ukraine sont intangibles. Donc, on est clair. Deux,
pardon,
on
frontière intangible, ça veut dire que l'Ukraine récupère l'intégralité de Donetsk et Lugansk, de ces régions-là, par exemple, et la Crimée.
Bien sûr que dans le cadre de ce traité, il faut que les Russes fassent un pas par rapport à ce que vous venez de dire, et deuxièmement, que l'OTAN et les Américains acceptent de s'engager à ce que l'Ukraine n'appartienne jamais à l'OTAN. C'est très important de le comprendre, c'est une nouvelle philosophie. Au fond, nous n'inventons rien, nous redisons, la France qui est aujourd'hui, qui apparaît comme la vassale des États-Unis, n'est plus audible et crédible. Regardez l'échec d'Emmanuel Macron.
Juste à deux reprises, Guillaume Pelletier, vous avez mis comme un signe égal entre la volonté de ce que vous appelez la volonté d'hégémonie américaine et au fond la volonté de puissance, appelons-le comme ça, de Poutine. On est bien d'accord tout de même que ce soit pour la Crimée, pour Lugansk, Donetsk il y a 8 ans et aujourd'hui, c'est d'abord Poutine qui est l'agresseur dans l'analyse.
Mais c'est la... Oui, mais...
Je dis ça parce que vous semblez mettre un signe égal avec ce que vous appelez l'hégémonie, la tentative d'hégémonie américaine.
Vous pouvez avoir raison, mais sur les années antérieures, vous pouvez avoir tort. Vous savez que la diplomatie, c'est un peu plus subtil que tout est blanc, tout est noir.
Bien sûr, mais là, on est à l'analyse d'une crise.
Oui, mais c'est pour en sortir, c'est tout l'inverse entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a voulu, on l'a bien vu, faire le malin, surcommuniquer sur un certain nombre, d'ailleurs,
d'échecs. Est-ce qu'il a bien fait de croire à la diplomatie jusqu'au dernier moment ?
Il a bien fait. Bien sûr, je l'ai dit dès le départ, et Éric Zemmour aussi, de tout faire pour engager la France dans la voie diplomatique avec une erreur. Vous savez ce qui fonde la diplomatie ? C'est le secret, ou au moins la discrétion. Et faire le malin que de dévoiler avant un accord définitif les dessous de l'accord, ça blesse la personne avec laquelle vous discutez. Donc nous disons, pour remettre tout à plat, on s'inscrit dans les pas du général de Gaulle, la France redevient cette puissance d'équilibre et de contrepoids face à toutes les hégémonies. Nous retrouvons notre indépendance, nous ne sommes soumis ni aux Russes ni aux Américains, et nous proposons un nouveau traité à tout le monde, avec les 27 et avec les Russes. 1. Les frontières sont intangibles. 2. L'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN.
Pourquoi Poutine écouterait-il cette France qui dirait cela, qui deviendrait potentiellement puissance d'équilibre ? Pourquoi l'écouterait-il davantage qu'il n'a écouté Macron ces derniers jours ?
Pour une raison simple, c'est que Vladimir Poutine, d'ailleurs, l'a dit à demi-mot dans son interview, c'est qu'il méprise ceux qui ne défendent pas de manière acharnée leur propre intérêt et leur propre indépendance. Et Emmanuel Macron et l'Europe, depuis bien longtemps, surtout avec l'intégration au commandement intégré de l'OTAN, ont démontré, sur un certain nombre de sujets, leur soumission aux Américains. Pour redevenir cette puissance d'équilibre, vous savez, oui, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, c'était pas il y a si longtemps, il y a presque une vingtaine d'années en 2003, avaient su dire non aux États-Unis. Et parce qu'ils avaient su dire non aux États-Unis, la France était redevenue écoutée par les nations arabes, par la nation russe et par toutes, au fond, les nations libres du monde.
Encore une question, vous l'avez reçue comment, l'allocution de Poutine ? C'est plus d'une heure de propos avec des termes très agressifs, une partie de révisionnisme en niant l'idée même d'une existence authentique du pays ukrainien. Vous l'avez reçue comment ? Il y a beaucoup de spécialistes qui disent il y a un problème d'équilibre et de paranoïa chez Poutine.
Alors, vous savez, je ne suis pas l'expert le meilleur au monde. J'ai été professeur d'histoire-géographie. Ouais. Je sais que...
Je vous dis ça parce que ça joue aussi dans cette crise et dans l'analyse qu'on peut avoir de cette crise. Est-ce qu'il n'y a pas un homme isolé qui...
Dans la diplomatie, il y a l'art aussi. On peut le regretter, mais c'est un fait qui date de plusieurs siècles ou millénaires. Il y a l'art de la provocation, il y a l'art de l'exagération. Il faut entendre ce qu'a voulu dire Vladimir Poutine, comme il faut entendre ce que disent nos amis ukrainiens. Je crois que l'équilibre pour sortir de cette guerre froide, qui hélas peut un jour basculer dans une vraie guerre, c'est de dire on entend les positions des uns et des autres, on a bien entendu que la Russie tenait à sa sécurité, donc pas d'OTAN à ses frontières. Par contre, on demande aux Russes, de manière certaine et ferme, qu'on ne touche pas aux frontières de l'Ukraine.
Les parrainages et Marie au standard. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je vous remercie de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Donc, je voulais tout simplement témoigner. Je suis une militante LR et je trouve absolument inadmissible que certains partis ne puissent pas être présentés aux élections présidentielles. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les politiques de tous bords ne s'en sont pas inquiétés un petit peu plus tôt. Mais il faut absolument, absolument parrainer tous les gens qui désirent se présenter aux élections. Sinon, ce serait un déni de démocratie et je pense que notre société abîmée, lézardée, n'a vraiment pas besoin de cela.
Merci Marie pour votre intervention. Guillaume Pelletier, on se dit toujours que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, il y a un peu de mise en scène, de l'inquiétude, et puis bon, ils les auront, les parrainages. Est-ce que vous êtes sincèrement, réellement inquiet sur le fait d'avoir ces 500 signatures ? Vous êtes à 350 de mémoire.
J'aimerais tellement vous croire. Vous savez qu'avec Éric Zemmour, Philippe de Villiers et toute une équipe extraordinaire, je parle pour nous, c'est sans doute le cas chez M. Mélenchon et Marine Le Pen, nous y passons 10 à 12 heures par jour chacun. Ce qui est très injuste par rapport à d'autres candidats qui, eux, ne font que campagne. Nous, on fait campagne, plus on doit rechercher les parrainages. Oui, Marie a raison, c'est-à-dire que le général de Gaulle avait inventé un système qui était très équilibré, qui consistait à dire, pour éviter les candidatures fantaisistes, il faut un certain nombre de parrainages. Mais on garantissait, comme pour le vote, qui est secret, je le rappelle, l'anonymat des maires. François Hollande a décidé de rendre public tous les noms des maires qui parrainent, transformant ce système vertueux en système vicieux qui permet aux gros partis politiques, aux vieux partis politiques qui pourtant ont tant échoué depuis 40 ans dans notre pays, d'empêcher l'émergence de candidatures nouvelles comme celle d'Éric Zemmour.
Donc si vous demandez une réforme, c'est celle de l'anonymat.
Ah oui, au moins celle-ci. Il faudra...
Même si par des élections passées, elle a pu être utilisée pour voilà pousser un candidat par en dessous et faire des petites manips politiques.
Oui, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra un système un jour d'équilibre entre l'anonymat des parrainages des maires et puis sans doute aussi une présentation par les citoyens. Par les Français, hein, 50 000, 100 000, 200 000, enfin, on n'en est pas là.
Et pour répondre bien à Marie,
pour bien le comprendre, oui, vous avez raison, pour bien comprendre ce que dit Marie, nous avons demandé, moi je suis député, depuis notre élection en 2017, toute la nouvelle génération, au président de la République et au gouvernement de changer ce système. Emmanuel Macron pouvait encore le faire il y a un mois, par une loi constitutionnelle, ça n'a pas été fait, nous le regrettons, on se bat, en manque encore, on va y arriver, mais c'est excessivement chronophage. Et donc je lance à nouveau un appel au maire. Oui, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et bien sûr notre candidat Éric Zemmour, qui est au pied du second tour, doivent pouvoir se présenter à l'élection présidentielle.
La semaine dernière encore, vous disiez on a plus de 500 promesses de parrainage. Vous aviez gonflé les chiffres ou qu'est-ce qui se passe ?
Non, vous savez, maintenant c'est plus une question de chiffres, c'est une question de parrainage. Il y a d'abord un travail sur les promesses avant que les formulaires officiels arrivent.
Mais comment on passe de plus de 500 promesses à 350 seulement parrainages, en tout cas pour l'instant ?
Ah bah, vous savez, dans la vie, il y a ceux qui promettent, y compris par écrit, qui mettent un peu de temps à envoyer leur parrainage. Le Conseil constitutionnel a reconnu qu'il met parfois plus d'une huitaine de jours à pouvoir traiter les parrainages. Donc, il en manque encore à l'heure où je parle. Nous allons y arriver, mais vraiment, il faut que tous les maires qui ont promis, si tous les maires qui nous ont promis finissent par envoyer leur parrainage, il n'y aura pas de problème. Mais c'est notre défi aujourd'hui. Il faut que chaque maire s'engage et que donc, même ceux qui n'ont pas promis se disent, est-ce qu'il serait démocratique et sain et légitime pour cette élection présidentielle, par exemple, qu'Éric Zemmour, qui représente aujourd'hui, vous l'avez dit, 14, 15, 16% des voix dans les sondages, ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Ce serait une élection qui, pour l'un des candidats absents que vous avez cité, deviendrait probablement illégitime.
Tout de même, Guillaume Pétier, 42 000 élus qui peuvent parrainer, ça vous interpelle pas de pas réussir à en trouver facilement 500 ?
Ah ben, j'ai été maire. J'appelle des dizaines et des dizaines de maires tous les jours.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ils nous disent, franchement, s'il n'y avait pas de problème d'anonymat, s'il y avait l'anonymat garanti, on aurait 3 ou 4 000 parrains, sans aucun problème. Le nombre de maires, et particulièrement les maires ruraux, les maires indépendants, les maires sans étiquette, qui nous disent, je suis à fond avec Éric Zemmour, vous avez raison, je veux qu'il gagne, mais j'ai peur des pressions du parti politique, des pressions de la communauté de communes, des pressions ou des menaces parce que mon nom va sortir dans la presse, tout ça c'est une réalité. J'ai été maire et je peux vous dire que tous les témoignages que j'entends du matin au soir sont de cet ordre. Il faut que chacun se dise, parrainer, ça n'est pas un soutien politique, c'est permettre sur le plan démocratique au grand courant d'opinion de pouvoir se présenter. D'ailleurs, j'entendais Monsieur Léniel sur votre antenne, permettez-moi de lancer un appel. J'ai vu que David
Disnard... C'était la question suivante.
Je remercie David Disnard d'avoir symboliquement parrainé Mélenchon en tant que président de droite de l'Association des maires de France en parrainant Mélenchon. Je demande à cet instant, à André Léniel, le numéro 2 de l'AMF, le maire socialiste,
l'Association des maires de France,
d'Issoudun, de faire la même chose et de parrainer Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Ça, ce serait un beau symbole. Il est quand même particulièrement bizarre. La droite a l'audace de parrainer la gauche. Il faudrait que des gens de gauche aient aussi le courage de parrainer des gens de droite.
Vous seriez prêt à piocher, entre guillemets, dans la banque de parrainage qu'est en train de mettre en place François Bayrou ? Il en a 180, je crois. Si on totalise Mélenchon, vous et Le Pen, il manque à peu près 350 parrainages. Donc ça fait la moitié. Vous seriez prêt à faire appel à cette banque des parrainages que
c'est à François Bayrou, je le remercie de son initiative, de demander aux maires qui ont rejoint sa plateforme de parrainer, je crois qu'il l'a dit, les trois candidats qui sont en difficulté. Nous, on fait confiance à nos équipes, on fait confiance à tous ces maires ruraux indépendants qui nous appellent tous les jours et qui disent « Allez, maintenant c'est sûr, on y va ». Parce qu'il faut qu'Éric Zemmour puisse être candidat à l'élection présidentielle. On sait qu'il y aura un duel bientôt entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Faut qu'Éric Zemmour puisse figurer et remporter l'élection présidentielle.
Vous y croyez au second tour ?
Ah oui, bien sûr.
Vous en êtes sûr ?
Ah, je sens monter en France comme une lame de fond ce grand duel, ce grand débat qui attend les Français entre deux visions de la France et du monde. Emmanuel Macron, une vision mondialiste, et puis la vision des patriotes, des amoureux de la France autour d'Éric Zemmour.
Étienne au standard, pardon, c'est un aussi. Vous nous appelez du Mans. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Pelletier. Bonjour aux journalistes de France Inter. Merci de prendre ma question. Question très simple, mais pas facile à répondre. Quel est le programme de Monsieur Éric Zemmour pour réduire l'endettement abyssal de la France qui s'élève à 2800 milliards de dettes, s'il vous plaît.
115% du PIB. Merci beaucoup Étienne pour cette question. D'abord, vous qui vous revendiquez du souverainisme, est-ce que la question de la dette est une question centrale pour vous ?
Bien sûr, la dette, c'est l'absence de souveraineté, c'est l'absence de liberté, c'est l'absence de marge de manœuvre pour nous et surtout pour les générations qui viennent.
Et pourtant, dans le programme d'Éric Zemmour, les économies ne sont pas tellement financées.
Si, je vais vous l'expliquer et on présentera ça d'ici une quinzaine de jours de manière très très détaillée. Je rappelle d'ailleurs pour ma génération, nous sommes les premières victimes. Quand je suis né à la fin des années 70, il n'y avait quasiment pas de dette en France et 40 années de vie politique. Voilà, aujourd'hui, comme le disait monsieur à juste titre, c'est presque 3 000 milliards. C'est vraiment un scandale.
Et
nos propositions sont les suivantes. D'abord, nous mettons fin à l'immigration, 20 milliards d'euros chaque année d'économies sur, entre autres, les aides sociales non contributives. Deuxièmement, nous
sachant
luttons...
que ce calcul-là, il est pas facile à faire et donc il est sujet à caution.
En tout cas, c'est le nôtre et ceux de c'est tous nôtre, nos, voilà. nos experts. Deuxièmement, nous luttons de manière acharnée contre les fraudes sociales et fiscales. C'est pas loin, selon les syndicats, de 100 milliards d'euros qui échappent au budget de l'État chaque année. Vous pourrez vérifier ce chiffre. On entame une réforme des retraites, 25 milliards d'euros d'économies. Donc, et puis tout un plan de simplification contre la bureaucratie, la paperasse, les arrêts maladie abusifs.
Et donc ce sera financé plus précisément annoncé plus précisément
exactement,
dans les 15 jours.
En gros, des dizaines de milliards d'économies en mettant fin à l'immigration, à l'assistanat, à la bureaucratie pour enfin redistribuer l'argent des Français à ceux qui travaillent, à ceux qui entreprennent, à ceux qui créent.
Merci Guillaume Pelletier, porte-parole du candidat Éric Zemmour d'être venu dans les studios de France Inter.